Bonjour, ici Walid Romani et bienvenue à Document 1.
L'indice des prix à la consommation a augmenté de 4,7% au Canada.
Inflation Nation
responds to stubborn inflation and points to a possible recession and much uncertainty for the coming year.
Inflation's grip on American consumers not letting up.
Et dans une note économique, une récession en 2023 au Canada.
Si vous êtes comme moi un fan de meurtres et mystères, hein, vous connaissez sans doute la règle, la première question qu'on se pose dans une histoire de détective, eh bien, à qui profite le meurtre? C'est la même question que je pose un peu aujourd'hui, c'est à qui profite la récession? Alors, vous l'avez beaucoup entendu dans les derniers mois, l'inflation est galopante. Ce qu'on vit est essentiellement extraordinaire au Canada et au Québec plus particulièrement. Hein. Donc, on a une hausse des prix vraiment importante. Et cette hausse, cette inflation généralisée est causée par trois éléments. Le premier, c'est la perturbation dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, notamment à cause de la guerre en Ukraine. On l'a vu, on a une augmentation temporaire de la demande pour des produits qui n'étaient pas disponibles pendant la pandémie. Et finalement, celle qu'on entend un peu moins, c'est les sécheresses généralisées qui affectent la production agricole. Alors, les changements climatiques ont déjà un impact important sur nos besoins, sur notre production de blé, notre production de maïs, etc. Et c'est en partie pour cette raison qu'on vit ces difficultés. Donc, les perturbations dans la chaîne mondiale se sont poursuivies beaucoup plus longtemps que ce qu'on espérait, ce que les économistes, que les politiciens espéraient. On espérait que ça allait se résorber tout seul. C'est généralement dans le textbook, dans le livre, le guide des difficultés économiques. Généralement, c'est le non-interventionnisme qui est prôné. Et donc, on espérait vraiment que dans les mois qui allaient suivre le début de ces problèmes, eh bien, ça allait se régler tout seul. Mais au final, ce qu'on a vu aux nouvelles, c'est que les ports débordent. Les expéditions accusent beaucoup de retard, notamment avec la Chine, qui jusqu'à tout récemment imposait une politique zéro COVID et qui a touché la production de nombreux biens et produits manufacturés. Donc, il y a certainement une corrélation entre inflation et les récessions. Hein. L'inflation a tendance à se calmer en période de récession et à s'accélérer en période de croissance. Chez nos amis du Sud, la Fed américaine compte sur cet effet parce que pour justement générer un peu de récession, ben c'est son principal outil. Hein. Alors là, j'ai utilisé plusieurs fois le mot récession. Qu'est-ce que c'est? Bien, une récession, c'est un ralentissement économique important, hein, généralisé, prolongé de l'activité économique dans une zone donnée. De façon générale, la règle qu'on a entendue beaucoup, c'est que on considère qu'on est en récession lorsqu'on a deux trimestres consécutifs de croissance négative du PIB, du produit intérieur brut. Il y a aussi d'autres formules qui sont un peu plus complexes et les économistes ont de plus en plus tendance à plus parler de ces autres éléments, mais le commun des mortels, c'est à peu près comme ça qu'on le comprend. Aux États-Unis, les économistes du National Bureau of Economic Research, le NBER, appelons-le comme ça. Alors, le NBER mesure les récessions en examinant la masse salariale non agricole, la production industrielle, les ventes au détail et il y a plusieurs autres indicateurs qui s'utilisent qui vont au-delà des fameux deux trimestres qu'on évoque souvent à la petite école aux nouvelles. Cependant, le NBER indique également, et il nous rappelle en fait qu'il n'y a pas de règles fixes pour nous donner, pour décider effectivement de moments de récession et la manière dont il faut prendre les décisions par rapport à ces moments difficiles. Alors en gros, depuis la révolution industrielle, la plupart des économies ont connu une croissance régulière et les contractions économiques sont une exception. bien que les récessions soient encore vraiment bien courantes. Hein. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Alors, selon le FMI, le Fonds monétaire international, entre 1960 et 2007, il y a eu 122 récessions qui ont touché 21 économies développées, environ 10 % du temps. Ces dernières années, les récessions sont devenues moins fréquentes et durent moins longtemps. On peut noter d'ailleurs que la récession de 80-81, hein, l'expansion a duré 12 mois, alors que par la suite de 2009-2020, la croissance a duré 129 mois. Donc, la baisse de production économique et de l'emploi causée par les récessions peut s'auto-réguler. Par exemple, la baisse de la demande des consommateurs peut inciter les entreprises à mettre à la porte du personnel, ce qui affecte le pouvoir d'achat des consommateurs, ce qui peut encore affaiblir la demande des consommateurs. De même, les marchés baissiers qui accompagnent souvent les récessions peuvent inverser l'effet de richesse, rendant soudainement les gens moins riches et réduisant du même coup la consommation. Depuis la fameuse Grande Dépression, les gouvernements du monde entier ont adopté des politiques budgétaires et monétaires pour éviter qu'une récession, qu'une petite récession ne s'aggrave et s'envenime comme ça a été le cas pendant la Grande Dépression. Certains de ces facteurs de stabilisation sont automatiques, comme l'assurance-emploi, qui remet de l'argent dans les poches des ouvriers qui ont perdu leur emploi. Il y a d'autres mesures qui nécessitent des actions spécifiques, telles que la baisse des taux d'intérêt, pour justement stimuler l'investissement. Alors, on parle, là, on voit qu'il y a un lien effectivement entre inflation et récession. Ce qu'il faut voir, c'est comment on peut agir là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui a été fait? Selon John Cochran, économiste à Hoover Institution de Stanford, bien, la Fed et les autres banques centrales, dans leur effort pour lutter contre l'inflation, ont resserré l'argent et le crédit au risque de provoquer une récession. Alors, comme on l'a expliqué plus tôt, c'est un des objectifs de la Fed et des banques centrales. Historiquement, la Fed et les banques ralentissent l'économie. Elles la poussent vers la récession et ralentissent spécifiquement les parties de l'économie qui dépendent d'un crédit bon marché. Et ces institutions espèrent que ce ralentissement économique va réduire l'inflation. Le défi est que la Fed et les banques centrales puissent ajouter juste assez de force récessive pour compenser l'inflation, mais pas au point de voir réellement une récession. Alors, il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent venir faire les troubles faits. La hausse des taux d'intérêt cause beaucoup de difficultés financières aux entreprises qui, une fois de plus, malgré plusieurs garde-fous réglementaires, se sont développées dans l'espoir d'emprunter à perpétuité. Alors, pour répondre un peu à la question de ce podcast, c'est à qui profite une récession? De par leur nature, les récessions ont des conséquences importantes, avec des effets négatifs touchant à plusieurs aspects des marchés financiers. Bien qu'il ne soit pas idéal de s'attendre à tirer un profit financier d'une économie en difficulté, les récessions sont une excellente opportunité pour certains. Les taux d'intérêt plus élevés au début d'une récession peuvent permettre de gagner plus sur les dépôts d'épargne, tandis que des taux plus bas à la sortie de la récession peuvent offrir des opportunités d'obtenir un prêt hypothécaire avantageux. Les investisseurs sur les marchés boursiers peuvent également être en mesure d'acheter des actifs en solde après leur dépréciation. Par exemple, un investisseur qui a acheté au début de la pandémie un fonds indiciel du S&P aura obtenu un gain de 78 % après coup. Si ce n'est pas le cas pour tous les actifs, on peut tout de même faire cet exercice pour un grand nombre d'entre eux. Et là, ça me ramène en tête ce que disait Warren Buffett, le CEO de Berkshire Hathaway, ce grand holding, dont la fortune est évaluée à plus de 110 milliards de dollars. Eh bien, il disait, et je cite, « The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. » En gros, le marché boursier, c'est un système pour transférer l'argent de l'impatient à celui qui est patient. Alors, en conclusion, ajuster la politique monétaire n'améliore pas la situation. L'inflation est le résultat de problèmes mondiaux dont la résolution nécessite une coordination internationale, comme des mesures pour réduire l'impact des changements climatiques sur notre approvisionnement alimentaire. La hausse des taux d'intérêt a peu d'effets immédiats et ralentit notre économie au moment même où les populations les plus vulnérables ont besoin d'aide. Qu'est-ce que cela signifie pour les Québécoises et les Québécois? Par le passé, les gouvernements de la province ont opté pour l'austérité et les baisses d'impôts. Et rien n'indique que cela a accéléré la reprise économique. Mais tout démontre que des milliers de Québécoises ont subi des contre-coups de ces coupures de services et de prestations. Que reste-t-il à faire alors? Il faut négocier des augmentations salariales arrimées au coût de la vie et combattre le mythe de la spirale inflationniste. Quand les gens ont assez d'argent pour subvenir à leurs besoins de base, l'économie locale en bénéficie. Le gouvernement du Québec a déjà fait un premier pas dans la bonne direction avec ses chèques de 400 et 600 $. Il faudra juste garder le cap dans les prochains mois, dans les prochaines années, et mieux cibler les populations vulnérables qui ont vraiment besoin de ces aides ponctuelles et ne contribueront pas à l'inflation.
Merci à tous, c'était Walid Romani pour Document 1. À la prochaine!